Bonjour, est-ce qu'on m'écoute bien? Ouais, je pense que oui, hein. Parfait, parfait. Donc, premièrement, soyez les bienvenus ce dimanche 22 mars à ce cours qui est « Croyez-vous » dans un livre de Paul David Tripp. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Daniel. Je suis un des anciens en formation ici à l'Église de l'Espoir depuis à peu près le mois de septembre de l'an passé, 2025. Donc, le cours d'aujourd'hui, ça se base sur les chapitres 17 et 18. Donc, si vous voulez, juste avant de débuter, on va faire un petit mot de prière. Seigneur, je te remercie pour cette matinée. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui ici, malgré la tempête, Seigneur. Je te demande que les autres personnes qui sont en route, qui vont venir plus tard, Seigneur, qu'elles puissent venir en sécurité, que tout se passe bien, Seigneur, dans leur trajet. Je te demande, Père, que tu puisses venir ce moment, qu'on va ouvrir ta parole, qu'on va voir, Seigneur, cette belle doctrine qui est la justification, que tu puisses, Seigneur, parler à nos cœurs, non seulement, Seigneur, nous remplir d'informations, mais aussi pouvoir, Seigneur, vivre cette vérité dans la vie de tous les jours. Je te remets, Seigneur, ce moment en ton nom, de ton Fils Jésus. Amen. Amen, amen. Parfait. Donc, avant de débuter, juste vous dire, si vous avez des questions, levez la main. Je pense qu'on est un petit groupe là, donc vous pouvez lever la main, vous pouvez parler sans problème, puis on pourra peut-être essayer de vous répondre. Sinon, comme vous le savez, le cours est basé sur le livre de Paul David Tripp. J'ai peut-être rajouté quelques d'autres références ici et là, vous allez peut-être les voir. Mais sinon, c'est vraiment basé surtout sur le livre de Paul David Tripp, Do You Believe? Donc, la justification. Qu'est-ce que la justification? J'avais mis une petite définition qui vient en fait d'un livre de Berkhoff. Vous l'avez, je vais la lire. C'est l'acte juridique de Dieu par lequel il déclare juste le pécheur sur la base de la justice parfaite de Jésus-Christ. C'est un acte qui s'accomplit immédiatement lorsqu'il croit et pour toujours. Et le livre clé, donc, qu'on va être surtout aujourd'hui, on va se concentrer, c'est sur l'épître aux Romains. Donc, Paul a vraiment écrit cette épître et c'est là ce qu'on trouve de manière, je pourrais dire, la plus détaillée, c'est que la justification. Donc, si vous avez vos Bibles, votre application, on va surtout être dans l'épître aux Romains. Donc, la question qui se pose, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une justification? Pourquoi est-ce qu'on parle de la justice de Christ? Premièrement, il faudrait voir comment est-ce qu'un Dieu juste peut-il avoir miséricorde ou pardonner des pécheurs? Comment est-ce que sa miséricorde, sa grâce peuvent s'accorder avec sa justice? Et puis, l'auteur du livre, Do You Believe, Paul David Tripp, il voit la réponse, ou il voit une piste de réponse dans le système sacrificiel de Lévitique, donc dans le livre des Lévites. Ce livre que souvent, lorsque nous, si vous suivez le plan de lecture, c'est souvent un livre qu'on considère un peu, entre guillemets, plate, long à lire, long à traverser. Mais ça parle d'une réalité que le peuple d'Israël devait vivre. L'homme pêche, nous péchons devant Dieu. Dieu a donc fourni un système de sacrifice. Il fallait malheureusement sacrifier. Il fallait donc tuer. Et Paul David Tripp voit ici le point important de la justification. La réponse du péché, ou face au péché, ce sont les sacrifices, afin de pouvoir satisfaire, puis c'est une satisfaction temporaire, la justice de Dieu, la colère de Dieu. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, ces sacrifices étaient temporaires. Nous pouvions offrir des sacrifices pour des péchés, mais ce n'était pas quelque chose qui, un sacrifice allait satisfaire pour toujours. Il fallait chaque jour sacrifier. Et Paul David Tripp, il voit vraiment quelque chose de, entre guillemets, très vulgaire, disons-le, dans un sens. Tous les jours, amener un animal, l'exécuter, il fallait verser le sang. Il va quand même assez de manière très explicite, l'auteur, en parlant vraiment de manière assez visuelle un peu, là, une représentation un peu visuelle de la gravité du péché dans les sacrifices. Il fallait exécuter un animal innocent, souvent un bœuf, souvent un agneau. Donc, on voyait un sacrifice, on voyait du sang être, du sang couler. Il parle comment les prêtres eux-mêmes étaient tachés par ce sang. Puisqu'il y avait un grand peuple, il y avait des sacrifices couramment, donc il parle même de l'odeur qui pouvait dégager ces sacrifices. Donc vous voyez à quel point le péché est horrible. Et comment un Israélite de ce temps-là pouvait associer péché à quelque chose de quand même assez dégoûtant, le besoin de devoir sacrifier, de voir le sang, de sentir le sang, de voir des cadavres d'animaux. Et c'est en fait ça ce qui représente le péché. C'est quelque chose de horrible devant les yeux de Dieu. Et Dieu demande donc un sacrifice. Paul David Tripp, il voit plusieurs choses qu'on peut observer du système sacrificiel de l'Ancien Testament. Entre autres, il peut voir comment Dieu était patient avec le peuple. Il leur a donné un moyen, jusqu'à certains points, de pouvoir se justifier. Il voit aussi à quel point Dieu est saint. Et cette sainteté de Dieu, il ne peut pas la compromettre. Vous voyez ? Il ne pouvait pas juste dire tout simplement, je pardonne, on passe à autre chose. Dieu est saint et ne peut pas compromettre sa sainteté. De notre côté, on peut voir comment Dieu est en colère envers le péché. Non, ce n'est pas une colère dépassée, c'est une colère juste. Si on considère que Dieu est saint, qu'il est parfait, sans tâche, on peut s'imaginer à peut-être une soupe, s'il y aurait une petite tache, un petit cheveu, ça serait sale. Mais c'est la même chose avec Dieu. Dieu ne peut pas tolérer un seul péché. Donc, à quel point Dieu regarde le péché comme quelque chose de grave et se met en colère contre le péché. De l'autre côté, on peut voir l'incapacité de l'homme de pouvoir se justifier. Il a besoin de quelque chose externe à lui, tel un animal. Il ne peut pas par lui-même satisfaire la colère de Dieu, ni se rendre juste devant Dieu. De l'autre côté, ce que la loi nous demande, c'est que la loi en elle-même n'est pas suffisante pour pouvoir se justifier. Si la loi aurait été suffisante, il n'y aurait pas eu de promesse d'un Messie, puisque la loi a été donnée à travers Moïse. Mais la loi n'était pas suffisante. Dieu a par la suite envoyé des prophètes qui ont promis la venue d'un homme. Et on le voit dès le début dans le livre de Genèse, lorsqu'Adam et Ève pêchent, il y a tout de suite la promesse de quelqu'un qui allait venir écraser la tête du serpent. Et finalement, ça parle de la nécessité d'un sacrifice unique, ultime et définitif. Un sacrifice d'une fois pour toutes. Nous avons donc besoin d'un sacrifice et d'un substitut pour nous, à notre place. Et puis je pense que, on le sait, ce substitut est Jésus-Christ. On peut donc voir l'apôtre Paul faire cette comparaison entre Adam et le nouveau Adam qu'il appelle, qui est Jésus-Christ. Adam était le représentant des êtres humains. Lorsqu'on se rappelle de l'histoire dans le livre de Genèse, nous voyons que la première personne à avoir désobéi est Ève, la femme. Elle n'était pas encore appelée Ève, la femme. La femme est la première à avoir mangé le fruit et par la suite avoir donné le fruit à son mari. Malgré que Ève est la première à avoir mangé, c'est quand même Adam celui qui est tenu responsable de la chute de l'homme. Donc Adam était le représentant de l'humanité et à travers son péché, nous avons hérité du péché, le monde il a introduit le péché au monde, et puis on se retrouve où ce qu'on est. Donc, lorsqu'on regarde Adam, la tentation à travers le serpent, il pêche. À cause de lui, le règne animal tombe. Nous voyons tout de suite qu'il est sorti du jardin d'Éden. Nous voyons comment des anges sont placés en face du jardin d'Éden, avec des épées. Donc les anges, il y a comme une relation qui est aussi brisée jusqu'à un certain point. On ne la connaît pas, mais quand même, les anges sont mis entre Dieu et l'homme, avec des épées en feu, on parle, qui tournent. Et le monde tombe, et à partir de là, tout parle à la dérive. Lorsqu'ils ont des enfants, leur propre fils aîné tue le petit-fils. En parallèle, on peut voir le nouvel Adam, qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, lorsqu'il a commencé son ministère, après avoir été baptisé, il a été conduit au désert. Il se retrouve face à Satan lui-même. Qui le tente ? Jésus-Christ n'a pas péché. Contrairement à Adam. Par la suite, c'est écrit que les anges le servaient et qu'il était avec les bêtes sauvages. Et nous voyons à partir de là, et même avant ça, mais on voit un Jésus qui est parfait, qui est saint et qui ne pêche pas. Juste. Jusqu'au point de mourir. Et c'est cette justice, c'est cette obéissance continue sans relâche, sans une seule faute qui est en réalité la base de notre justification. Et en fait, c'est la raison même par laquelle son sacrifice est accepté. Si nous ouvrons notre Bible, j'avais mis un petit passage dans Ésaïe 53. Un passage très connu, Ésaïe 53. Si vous voulez le chercher. Sinon, je peux le lire. Je vais le lire, excusez. Ésaïe 53 nous parle de la venue d'un homme. Je pense que ça vaut quand même la peine de le lire. Je vais vous lire. Ésaïe 53, verset 1 qui dit « Qui a cru à notre prédication ? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé ? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur, propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Si je saute au verset 11, ça dit « Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste, on voit ici qu'il est juste, procurera la justice à beaucoup d'hommes, c'est lui qui portera leurs fautes. » Donc on voit ici prophétiser dans le livre d'Ésaïe, beaucoup avant que Jésus vienne, qu'un homme allait venir, qu'il allait être juste, le verset 11, « Mon serviteur juste, et que ce serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes, parce que c'est lui qui portera les fautes. » Donc on voit clairement ici cette idée d'un homme juste qui allait porter nos fautes. C'est ce que Paul écrit aussi aux Corinthiens, dans sa deuxième épître, au chapitre 5, au verset 21. Deuxième de Corinthiens 5, 21. Ça dit comme suit, « Celui qui n'a point connu le péché, en parlant de Jésus-Christ, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Donc on voit ici clairement ce concept d'un homme juste, sans péché, comme il écrit, « qui n'a point connu le péché, devenir péché, afin que nous devenions en lui justice. » Donc on voit déjà cette idée d'un homme juste qui prend la place des pécheurs, mais qui nous donne sa justice. Et c'est ce que Paul, en fait, dit tout simplement en résumant dans le livre des Romains, chapitre 3, à partir de verset 21. Il est écrit, « Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour ceux qui croient, il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, une victime expiatoire. On parlait de sacrifice, voici la victime expiatoire. Pour ceux qui croiraient, il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il l'a démontré dans le temps présent, de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Nous voyons donc que Christ est cette victime expiatoire ultime finale. C'est Jésus-Christ. Et à travers ce sacrifice, Paul nous dit dans le verset 25, il démontre ainsi sa justice en parlant de Dieu, qu'il avait laissé impunis les péchés. Et comme il dit dans le verset 26, il démontre dans le temps présent de manière à être juste. Donc le Seigneur reste juste. Comment réconcilier un Dieu juste avec un monde pécheur à travers ce sacrifice, à travers ses victimes? C'est le Seigneur lui-même qui a été puni pour nos péchés. C'est de cette manière, il reste juste, tout en déclarant juste ceux qui ont la foi en Jésus. On voit donc que la justice est par la foi en Jésus-Christ. Dieu reste juste, tout en justifiant le pécheur. Et c'est vraiment donc cette vie, dans cette obéissance parfaite de Jésus-Christ et dans sa mort à notre place que nous pouvons obtenir justice. Mais ce n'est pas juste la vie parfaite et la mort de Jésus. Il y a un autre élément important à notre justification, et c'est ce que nous voyons dans le verset, à partir de verset 23, toujours de Romains 3, qui dit « Or, ce n'est pas pour lui seulement qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte, mais c'est, à nous, mais c'est aussi pour nous. Elle sera portée à notre compte puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur. Celui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. » Il y a aussi l'aspect de la résurrection de Christ. La preuve que le sacrifice de Jésus a été accepté, l'homme juste, c'est qu'il a été ressuscité d'entre les morts. Ce n'est pas comme les animaux, un sacrifice, où ce qu'il a été puni, l'animal a été puni, puis l'animal était par la suite. Ben, une partie était prise par les prêtres, l'autre était brûlée. Ici, on voit une résurrection. Donc la preuve que le sacrifice a été accepté, c'est la résurrection du Seigneur Jésus. Nous pouvons donc conclure, tel que Paul le dit, dans Romains 5, 17, « Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de sa justice régnant à plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » On voit donc ici qu'on peut seulement être justifié à travers le Seigneur Jésus. Et ce concept est un concept différent de toutes les autres religions. Si nous voyons toutes les religions, ils ont un système de mérite, non ? Il faut faire quelque chose pour être bien devant Dieu, pour apaiser la colère des divinités. Et c'est ce que Paul David Tripp nous écrit, j'ai mis une petite citation, qui dit « Toutes les religions proposent généralement un système par lequel les humains doivent mériter la faveur de Dieu. Mais l'Évangile enseigne que le pardon est un don, par grâce. Chaque être humain a profondément besoin de pardon. Pour être en règle devant Dieu, il faut abandonner toute confiance en soi et venir à Dieu avec humilité et foi. L'espérance que nous recevons n'est pas gagnée par nous, mais gagnée par Christ et donnée par grâce. » Et c'est vraiment ça qui distingue l'Évangile. Et c'est vraiment ça la différence avec tout le reste. C'est que notre justification ne vient pas de nos propres œuvres, mais vraiment parce que Christ a fait, par l'œuvre de Christ. Alors comment accéder à cette justification? On a vu que c'est Jésus lui-même qui est mort à notre place, il a été juste, il a ressuscité. Comment pouvons-nous accéder à cette justification? Eh bien, l'apôtre Paul répond à cette question au chapitre 4, toujours dans l'épître des Romains. Et il est écrit, « Que dirons-nous donc, Abraham, notre ancêtre, qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts? Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte, et non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste et impie, sa foi lui est comptée comme justice. » On voit ici un rappel de Paul de l'histoire d'Abraham, n'est-ce pas? Le père de la foi, il l'appelait le père de la foi. Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant. Son épouse n'était pas capable d'avoir des enfants, ils n'avaient pas d'enfants, et il était âgé, et le Seigneur lui a promis qu'il allait avoir une descendance. Et cette descendance, à travers sa descendance, toutes les nations allaient être bénies. Mais Abraham était rendu dans un âge très avancé, il n'a jamais eu d'enfants, mais il a cru en ce que le Seigneur lui a promis. Et c'est pour ça qu'il a été justifié par sa foi. Et c'est vraiment ce que l'apôtre Paul met l'emphase. De la même manière, nous, ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est vraiment par ce que Christ a fait et on accède à travers la foi. Alors là, on pourrait se poser la question, et c'est ce que Paul fait en répondant, peut-être qu'Abraham est justifié à cause de quelque chose qu'il aurait pu faire, telle la circoncision, n'est-ce pas? Pour faire partie du peuple d'Israël, pour être un Israélite, il fallait se circoncire. C'est une action. C'était quelque chose qu'on portait dans le corps. Eh bien, l'apôtre Paul remarque que lorsque Abraham a été justifié, il n'était pas encore circoncis. Il dit donc, dans le verset 10, quand donc a-t-elle été portée à son compte, en parlant de la justification? Est-ce après ou avant sa circoncision? Ce n'était pas après sa circoncision, mais bien alors qu'il était incirconcis. Il a reçu le signe de la circoncision comme la gage de la justice qu'il avait obtenue par la foi alors qu'il était incirconcis. Il est ainsi le père de tous les incirconcis qui croient, afin que la justice soit aussi portée à leur compte. Et c'est ça le point que l'apôtre Paul veut faire. C'est qu'on ne fait rien pour pouvoir mériter cette justification à part le fait de croire en celui qui justifie. On croit en l'œuvre de Christ, dans ce que lui, il a fait. On peut voir aussi ce concept résumé dans Galates 2. Dans Galates 2, versets 16 au 21, il est écrit « Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi. Puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi, je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. » Il fait vraiment l'emphase que nous ne pouvons rien faire pour obtenir justice, pour être juste devant Dieu. Nous ne pouvons rien faire. Et on va voir un peu plus tard comment est-ce qu'on peut vivre cette vérité. Mais il ne faut pas oublier, on ne peut absolument rien faire et rien de ce qu'on fait peut aussi nous retirer la justice de Dieu. Rien de ce qu'on fait ou de ce qu'on pourra faire de mal peut aussi nous enlever notre justification devant Dieu, puisqu'elle repose sur ce que Christ a fait. On a donc parlé de la justice imputée. C'est le troisième point, le C. La justice imputée. Qu'est-ce qu'on veut dire par la justice imputée? C'est cette justice qui nous est donc donnée par Christ. Donc, nous avons vu que Jésus est mort à notre place, et c'est un concept très reconnu, non? Dans le christianisme, on dit tout le temps, viens à Christ, il va pardonner tes péchés. Il a pris ta place à la croix. Et c'est vrai, ça fait partie de la justification. Mais l'autre partie, c'est que Christ nous donne sa justice. Non, on a souvent l'image de l'homme qui est propre, avec un vêtement propre, des habits blancs. Nous, pécheurs, on a les habits noirs, sales. Et ce n'est pas seulement que Christ prend notre habit sale et nous laisse comme ça. Il nous donne aussi son habit à lui, propre, blanc, juste. Et c'est à travers cet habit-là qui est basé sur sur la justice et sur l'obéissance de Christ que Dieu le Père nous regarde. Donc, il nous donne sa justice. Sa justice nous est donnée lorsque nous croyons. Paul David Tripp dit que c'est au moment que le Saint-Esprit applique l'œuvre de Christ dans nos vies que nous sommes justifiés. Donc, c'est vraiment au moment qu'on croit que nous sommes déclarés justes. Encore une fois, notre statut, la justification a un lien avec notre statut, en lien avec ce que Christ a fait, avec l'œuvre de Christ, et non pas avec ce que nous avons pu faire ou ce que nous pourrons faire. On va donc à la deuxième partie, qui est donc les implications pour le croyant. Comment est-ce que cette vérité, qui peut être très théorique, nous sommes justifiés, a des effets pour le croyant? Souvent, lorsqu'on parle de l'Évangile, peut-être pas dans nos milieux vraiment, mais souvent, quand on parle de l'Évangile, de la justification, du salut, on pense tout de suite vie éternelle et on pense tout de suite le ciel. Et on fait le parallèle, non? Ciel et enfer. Je suis sauvé, je vais aller au ciel. Mais en fait, la justification et le salut ont des effets pour la vie de tous les jours. Non seulement le voir comme quelque chose pour l'éternité, mais aussi pour les aujourd'hui. Donc, Paul David Tripp, il voit à peu près 7 implications pour la vie de tous les jours. Le premier qu'il voit, c'est l'humilité. La justification par la foi, sans les œuvres, devrait nous rendre humbles. Paul écrit aux Romains, chapitre 3, versets 27 et 28. Où est donc le sujet de se glorifier? Il exclut. L'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Et ce concept, on peut surtout le voir dans plusieurs endroits dans l'Évangile, n'est-ce pas? Parce que Christ dit souvent ta foi t'a sauvé, mais il y a un passage qui me faisait penser à cette vérité de l'humilité, et il se trouve dans Luc chapitre 7 verset 36 jusqu'au 50. Et dans le fond, c'est une histoire quand même assez connue. Si vous la cherchez, Luc 7 36, c'est lorsqu'un pharisien invite Jésus à manger chez lui. Et pour ceux qui le savent ou ne le savent pas, les pharisiens, c'était une secte religieuse du judaïsme très sévère. On le voit dans les évangiles qu'ils étaient très, très fiers. Ils se montraient fiers pour ce qu'ils faisaient. Selon eux, non seulement ils gardaient la loi, mais aussi ils gardaient d'autres traditions des hommes. Donc ils se croyaient vraiment justes par ce qu'ils faisaient. Et ce pharisien invite Jésus à manger chez lui. Il s'écrit que Jésus est entré dans la maison du pharisien et il s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et s'éteint derrière au pied de Jésus. Et c'est quand même une histoire assez connue. Elle pleure, elle met le parfum, elle pleure, elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit deux personnages, le pharisien et la femme pécheresse, une prostituée. Et on voit le parallèle, comment elle, devant Jésus, elle s'en fout, excusez-moi l'expression là, elle ne lui importe pas le fait d'être pécheresse. Elle se met aux pieds de Jésus et elle pleure, elle nettoie, elle oint, elle donne des becs à ses pieds. C'est écrit dans le verset 39, le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Imaginez-vous le concept de ce pharisien. Il saurait qui la touche. Et vous savez, lorsqu'on se salue, on se donne la main, n'est-ce pas? Rarement, lorsqu'on parle de salutation ou de respect, on pense à toucher à des pieds. N'est-ce pas? Les pieds, ce n'est pas la chose la plus propre. Non plus. En fait, c'est pour ça que, on va voir un peu plus tard dans l'histoire, mais on donnait dans le temps parce qu'on mettait des sandales, un petit seau pour se laver les pieds, parce que les pieds étaient sales. Et cet homme-là se dit juste le fait que cette femme prostituée touche ses pieds, Jésus aurait dû être scandalisé. Quelque chose de sale touché par une femme sale, dans sa tête à lui. Mais Jésus va plus loin et sachant ce que Simon le pharisien se disait, Il a dit quelque chose, il a plutôt enseigné une parabole à Simon. Et cette parabole, elle se trouve dans le verset 40. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répond-il. » Un créancier avait deux débiteurs. L'un avait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a remis le plus. » Jésus lui a dit, « Tu as bien jugé. » Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme, je suis rentré dans toute la maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés avec ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a point cessé de me baisser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui elle en pardonne peu, en aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Et par la suite, ils sont scandalisés. Et au verset 50, Jésus continue et il dit, mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. On voit ici... Comment un homme qui se pensait juste parce qu'il faisait était arrogant, se pensait supérieur aux autres, et une femme qui savait sa condition, qui était pécheresse. Et en réalité, Simon le pharisien, sûrement péché de plein d'autres manières, qui offense aussi le Seigneur. Peut-être moins scandaleux à l'œil public, comme une prostituée, mais autant scandaleux aux yeux de Dieu. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est pas selon ce que les autres font, mais aux yeux de Dieu. Si nous sommes réellement justifiés par la foi, nous n'avons aucune raison de sentir orgueilleux. Au contraire, nous allons être humbles. Nous serons prêts à être humbles sans être arrogants. On peut donc se poser la question, nous sentons-nous supérieurs aux autres? En tant que chrétiens, est-ce qu'on se pense supérieur aux autres? Peut-être qu'on se pense supérieur aux athées. Peut-être qu'on se pense supérieur aux personnes d'autres religions. À eux, ils adorent des statues. Nous adorons le vrai Dieu. Avons-nous un certain sentiment d'orgueil? Pensons-nous peut-être aussi, entre frères, être des meilleurs chrétiens? Ah, je suis meilleur que lui. Regardez, lui, il vient, je vous donne un exemple comme ça, il vient de temps en temps à l'église. Oh, regardez, j'ai entendu dire qu'il pêche. Sommes-nous réellement, pensons-nous être meilleurs que les autres? Si nous sommes justifiés par la foi, nous savons que ce n'est pas par nos propres œuvres. Ou sommes-nous vite à juger les autres? Ça, c'est l'autre question qu'on pourrait se poser. Est-ce qu'on juge trop vite les autres, sans se juger soi-même? Sommes-nous souvent scandalisés par le péché des autres, plus que par notre propre péché personnel? Donc, si nous sommes justifiés, nous serons humbles, on aura de l'humilité. L'autre implication que voit Paul David Tripp, c'est la gratitude. On doit être des gens qui sont toujours reconnaissants envers Dieu. Comme vous le savez, comme on l'a dit, on ne peut rien faire pour être justifié. C'est vraiment un cadeau, c'est par grâce. C'est par grâce que nous sommes justifiés. Donc, on pourrait peut-être alors le comparer, voir sur un autre aspect. Sommes-nous toujours en train de nous plaindre, comme si on n'aurait pas reçu le plus grand des cadeaux, qui est la justification devant Dieu, qui est la réconciliation avec Dieu? Sommes-nous des personnes faciles à se plaindre lorsqu'il y a des circonstances difficiles? Sommes-nous des personnes qui, souvent peut-être, on a l'impression que Dieu est fâché avec nous, à la place d'avoir une attitude reconnaissante, de gratitude? Christ est le plus grand cadeau. La justification est la plus grande chose que nous avons. L'autre implication que Paul D.B. Tripp voit, c'est la liberté. Lorsque nous sommes justifiés, nous avons été libérés. Pour le moment, nous avons été libérés du poids de la loi. Donc, nous n'avons plus à obéir la loi. Imaginez-vous vivre constamment avec des règlements. On a tous été enfants, n'est-ce pas? On se souvient tous de que peut-être nos parents, quand on était enfants, on les considérait sévères. Ils me mettent plein de règlements, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Peut-être qu'on a eu des parents peut-être un peu trop sévères, on ne pouvait rien faire et on se sentait un peu comme observé en tout temps. Eh bien, en Christ, par la justification, par la foi, nous avons cette liberté du poids de la loi. De notre côté, nous n'avons plus de culpabilité. Nous n'avons aucune raison de se sentir coupable. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se repentir de nos péchés, mais avoir un sentiment de culpabilité en tout temps, de regret pour les péchés passés, on ne devrait plus les avoir. Pourquoi? Parce que Christ a déjà payé pour ça. Et de notre côté, on n'a pas de raison de cacher notre péché. Comme Adam l'a fait, peut-être ce que nous faisons aussi, nous péchons, notre premier réflexe, c'est de ne pas aller vers Dieu. N'est-ce pas? On pêche, aujourd'hui, je n'ai pas une belle journée, je ne pense pas que je vais prier. Lire la Bible, peut-être demain. Demain, ça sera mieux parce que demain oui, je vais pas pécher, je vais avoir une belle journée. Non, on est libre de la culpabilité. On peut se présenter devant Dieu parce qu'il nous voit comme juste et on peut lui demander péché. On peut lui demander pardon pour nos péchés. Nous n'avons donc pas honte devant Dieu puisque nous sommes justes, purs, sans tache devant lui. L'autre aspect, c'est nous sommes libres de la peur et pour illustrer ce concept de liberté, il y a une autre histoire dans les évangiles que je trouve quand même assez impressionnante. Et ça se trouve dans le... c'est la femme, en fait, avec la perte de sang. Et c'est... Désolé, je n'ai pas écrit le chapitre. C'est dans Luc. Je vais lire l'histoire. C'est quand même une histoire assez connue. Jésus se trouve devant une foule. Ils sont en direction d'un autre pharisien. Un chef de synagogue, désolé, qui s'appelle Jairus, qui avait une fille de 12 ans qui était malade. Et on voit deux histoires en même temps. On voit une autre femme qui, elle était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et on lit, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien, tous ses biens pour les médecins, sans qu'aucun pût la guérir. » Elle s'approcha par derrière et toucha le bord de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tout se défendait, Pierre et ceux qui étaient avec lui lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse. » Et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Cette femme avait une perte de sang. Dans la loi de Moïse, dans l'Ancien Testament, dans la loi, une femme qui était dans sa période était considérée impure. Cette femme avait une perte de sang depuis 12 ans. Donc depuis 12 ans, elle était considérée comme impure. Impure, pas digne d'aller au temple, impure en tout temps, devant le Seigneur, dans sa conscience, elle était impure. Et on voit ici qu'elle est guérie, on voit ici son impureté être retirée. Il n'a plus d'honte d'être la femme impure, la femme qui est une perte de sang. Elle pouvait aller au temple, elle a été libérée. Et c'est ce que nous voyons par la suite, lorsque Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et on peut se poser quelques questions. Voulons-nous plaire à Dieu par nos propres forces? Sommes-nous motivés par la peur lorsqu'on recherche Dieu? On a une liberté en Christ, on a une liberté dans le fait d'être justifié. Donc nous ne devons pas avoir ce type de pensée. Et j'aime comment ce verset, comment cette histoire termine avec cette femme. Lorsqu'elle est guérie, lorsqu'elle se trouve avec Christ, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Cette femme qui aurait pu être considérée impure, son identité a changé. Et c'est ça l'autre point, l'identité. Jésus lui dit, ma fille. Il y a une nouvelle identité. Ce n'est plus la même personne. Ce n'est plus la femme impure, ce n'est plus la femme qui coule, ce n'est plus la femme qui a gaspillé tout son argent. Elle est maintenant une fille. Nous avons donc une nouvelle identité, et cette identité est celle de fils de Dieu. Galates 3, 26 dit, « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Nous avons donc une nouvelle identité en Dieu. C'est quelque chose de stable, c'est quelque chose d'éternel. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu n'est plus un Dieu lointain, en colère, fâché. Dieu devient notre Père. N'est-ce pas? Et c'est peut-être quelque chose que nous avons pris pour être qui? Dieu est un Père. N'est-ce pas? On regarde la prière que Jésus a enseignée à notre Père. Peut-être que dans l'ancienne religion, dans le catholicisme, il fallait faire 10 notre Père. Donc ça devient quelque chose de vain. Mais en réalité, le fait que Dieu est notre Père, quelque chose de grand. Je dirais même que c'est quelque chose qui nous distingue même des autres religions. Par exemple, dans l'islam, Allah n'est pas un Père. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Jésus avait à un moment donné dit, vous étant de mauvais pères, vous savez donner des bonnes choses. Combien Dieu alors, qui est notre Père, nous donnera des bonnes choses? Je pense qu'il ne faut pas oublier que nous sommes enfants de Dieu. Donc nous sommes pardonnés, adoptés, aimés. Nous sommes aimés de Dieu. Notre filiation ne vient pas de notre semaine. Est-ce que j'ai été un bon chrétien? Non, notre filiation vient de Dieu. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, par la foi. Elle ne dépend pas de l'ordre de notre prière, c'est vraiment par la foi en Jésus-Christ. Elle ne dépend pas de notre sainteté personnelle, elle est vraiment par notre foi en Jésus-Christ. Paul écrit aux Galates, chapitre 4, « Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils, qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Nous sommes donc des enfants, et l'esprit de son Fils, le Saint-Esprit, est en nous. On pourrait donc se poser quelques questions. Est-ce qu'on cherche notre identité dans autre chose qu'en Dieu? Peut-être que c'est le travail. Alors moi, ma vision de qui je suis, c'est selon mon emploi. Si on regarde l'économie de nos jours, qui fait peut-être un peu peur à quelques-uns, mais moi, personnellement, des fois, je regarde l'économie. Et si je perds mon travail, je reste quand même un fils de Dieu. Est-ce que notre identité est dans la famille? Est-ce que nos enfants sont plus... Moi, je suis père. Est-ce que à un moment donné, est-ce que mon fils est plus important que Dieu? C'est des questions difficiles, c'est des fois, ça nous fait penser, on doit méditer, on doit se rappeler que, ben, en fait, non, mon identité ne vient pas de ma famille, mais vient du fait que je suis fils de Dieu. On pourrait même se poser la question, les personnes qui ne sont pas mariées, qui cherchent un époux, une épouse, et qui se disent, mais j'ai personne, je suis célibataire, puis c'est ça dans sa tête, quelqu'un de célibataire. Non, nous sommes enfants de Dieu. Donc nous devons chercher toujours notre identité dans le fait que nous sommes enfants de Dieu. Une des autres implications que Paul David Tripp voit, c'est que nous avons maintenant un potentiel. Qu'est-ce qu'il veut dire par potentiel ? C'est-à-dire que nous avons le pouvoir de dire non au péché et oui à l'obéissance. Comme on vient de le voir, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Galates 2,7 dit « Mais si en cherchant à être déclaré juste en Christ, nous avons été trouvés pécheurs nous aussi, cela signifie-t-il que Christ est un serviteur du péché ? Certainement pas. En effet, si je reconstruis ce que j'ai détruit, je me présente moi-même comme coupable, puisque c'est la loi qui m'a amené à mourir à la loi afin de vivre pour Dieu. » Et il dit « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, en effet. Si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. » Mais on voit ici cette réalité, lorsqu'on croit en Christ, c'est que nous aussi, nous avons été crucifiés avec Christ. Et on ne vit plus pour nous-mêmes, on vit maintenant, c'est Christ qui vit en nous, et c'est par lui que nous pouvons maintenant vivre une vie de sainteté. Et l'autre implication que voit Paul David Tripp, mais c'est dans les valeurs. Qu'est-ce qu'il veut dire par les valeurs ? Souvent, nous avons tendance à élever des choses au-dessus de ce qui importe réellement. Et va contrôler nos pensées, nos désirs, nos actions. Et puis la justification réaligne nos valeurs. Elle recentre notre cœur sur Dieu. On peut se poser la question, y a-t-il quelque chose de plus grand que la justification ? Y a-t-il une autre raison pour laquelle Jésus-Christ est venu, il a descendu mourir dans la croix pour nous ? On devrait donc voir chaque petit aspect de notre vie sous l'angle de l'évangile, sous l'angle de la justification. On peut remettre en ordre nos idées. On peut penser à la parabole de Jésus, lorsqu'il dit, si on a déjà vu des oiseaux semer, non, on n'a jamais vu, mais le Père les nourrit. On a déjà vu des fleurs aussi belles, plus belles, et il a dit que même pas Salomon s'est habillé comme ce genre de fleurs. Il a donc dit, recherchez la justice, le royaume de Dieu et sa justice, et le reste viendra. Donc, à travers la justification, on peut remettre en ordre nos priorités, ce qui importe réellement. Et la dernière implication que voit Paul David Tripp, c'est par rapport aux attaques spirituelles. Nous avons maintenant une défense spirituelle. Comme vous savez, la vie chrétienne est aussi un combat spirituel. Tout n'est pas beau, on a des combats, souvent avec nous-mêmes, avec le diable. Et c'est là qu'il faut alors sortir la justification comme une arme, comme une défense. Lorsque nous péchons, on a de la culpabilité. Peut-être qu'alors on commence à se douter. Suis-je réellement sauvé ? Mais comme on l'a vu, ce n'est pas parce qu'on fait ou parce qu'on ne fait pas. C'est vraiment parce que Christ a fait. On peut donc se dire, lorsqu'on pêche, lorsqu'on a une semaine qui n'a vraiment pas été bonne, ça ne change en rien mon statut devant Dieu. Je reste juste devant lui. On pourrait se rappeler du verset, lorsque Christ était sur la croix, il a dit, tout a été accompli. Donc, tout a été accompli par Christ, nous n'avons plus rien à accomplir. Un autre type d'attaque qu'on peut avoir, c'est dans la souffrance. On passe des épreuves difficiles, on souffre des maladies, des décès inattendus. On pourrait donc douter de l'amour de Dieu. Est-ce que Dieu m'aime réellement ? Comment est-ce possible que Dieu a laissé que je traverse cette épreuve ? Est-ce que Dieu m'aime réellement ? Ben alors, on peut se rappeler qu'il a donné par amour son Fils. Ainsi, la justification par la foi à travers l'œuvre de Christ nous rappelle que le Seigneur nous aime, puisqu'il nous a justifiés. Malgré les épreuves, le Seigneur nous aime. On n'est plus sous la colère de Dieu, nous n'avons plus à craindre de Dieu. Au contraire, nous sommes justifiés et nous sommes aimés de Dieu. On pourrait penser justement à Paul aussi, aux Romains, lorsqu'il crie, qu'est-ce qui pourrait nous séparer de l'amour de Dieu ? Rien. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni les persécutions, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. La justification est donc une défense spirituelle devant ces attaques que nous pouvons avoir dans la souffrance. On peut donc se poser quelques questions. Est-ce que nous mettons notre confiance dans notre sainteté ? Sommes-nous en train de douter de l'amour de Dieu dans les épreuves ? Avons-nous l'impression d'être châtiés par Dieu constamment ? Même moi, des fois, entre vous et moi, là, quand même plusieurs ici, mais des fois, on vit des choses, il y a des choses qui arrivent une après l'autre, puis on se dit, est-ce que Dieu, peut-être que j'ai perdu la faveur de Dieu ? Comme si Dieu serait constamment en train de surveiller chaque petite chose qu'on fait, puis il est là prêt à nous punir. Mais non, le Seigneur a donné son Fils. Nous sommes justes. Il nous voit comme justes. Nous ne devons donc pas avoir ce sentiment d'être constamment châtiés comme si Dieu serait méchant. Au contraire, Dieu nous voit comme justes. Nous sommes justes devant Dieu. En conclusion, la justification est une œuvre complète de Dieu qui transforme non seulement notre statut et notre éternité, mais aussi notre vie présente. Elle s'obtient par la foi en l'œuvre et la personne de Jésus-Christ, sans les œuvres de la loi. Elle produit l'humilité, la gratitude, la liberté, une nouvelle identité en Dieu. Elle met nos valeurs en ordre et est pour nous une défense spirituelle. Maintenant, on se trouve avec d'autres questions que l'apôtre Paul va disserter au chapitre 6 dans les Romains. Donc, si nous sommes justes, si nous sommes justifiés par la foi, sans les œuvres, devons-nous donc persister dans le péché ? Et Paul répond au verset 2 dans le chapitre 6 des Romains, « Certainement pas, nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché ?» Et ça, c'est un autre aspect qui sera discuté la semaine prochaine avec justement Matthieu, la sanctification. Donc oui, on est justifié par la foi sans les œuvres, mais cette foi que nous avons n'est pas stérile. Cette foi porte fruit par le pouvoir du Saint-Esprit en nous, et c'est ce qu'on appelle la sanctification. Ce processus d'être jour après jour transformé par la parole, par le pouvoir de l'Esprit, en l'image de Jésus-Christ. Donc ça c'est le dimanche prochain. Je vous invite à venir à la même heure, à 9h du matin, avec Matthieu qui enseignera sur la sanctification. C'est tout de mon côté. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires, quelque chose à dire. Non ? Oui, oui, Miguel. Je vais répéter ta question, tu me diras si c'est bon pour que tout le monde comprenne. Dans le fond, on voit de nos jours beaucoup le concept de justice sociale, n'est-ce pas ? On veut faire justice. Et puis la question de Miguel, si j'ai bien compris, c'est nous, on se dit être juste, comment est-ce qu'on devrait vivre ou comment devrons-nous réagir face à l'injustice sociale ? C'est mieux ça en tant que chrétien. Mais, premièrement, puisqu'on parle de justice, puis la justice se trouve par la foi en Jésus-Christ. La justice parle premièrement, comme je disais, d'un statut avec Dieu. Donc, nous, premièrement, avec les gens autour de nous, on devrait dire ce concept de que, ben, en fait, on ne peut pas être juste en dehors de Dieu. Puisque souvent, dans le monde, la justice s'obtient parce que nous pouvons faire ou... Et puis, on peut le voir justement lorsqu'on parle des... Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans l'Internet, là. les social justice warriors, là, qu'on appelle des fois, ce sont des personnes des fois même très arrogantes. Mais nous, puisque nous sommes justifiés, comment est-ce que nous on peut refléter la justice? Mais je pense que c'est dans la vie de tous les jours, les gens autour de nous. Je pense que, premièrement, si on est justifié par la foi, on ne devrait pas être arrogant, numéro un, envers les autres, puis être humble, comme on l'a vu, et pouvoir aider selon nos limites, bien évidemment, parce que le concept aussi de justice, souvent dans le monde, c'est comme si on veut changer le monde. Tu sais, comment dire, en grande partie, mais en réalité, c'est juste avec notre prochain, les gens autour de nous. Alors, je pense que comment établir la justice, c'est voir notre communauté, le monde autour de nous, nos amis, si nous allons aux étudiants, ben, les gens autour de nous, s'il y a des personnes qu'on voit qui ont besoin d'aide avec de la nourriture, ben, on peut les aider. Fait que je pense que la justice de Dieu se voit aussi à travers nos actes. Comme on l'a vu, ce n'est pas juste un statut, il y a aussi des fruits qui sont apportés. Et puis je pense que c'est comme ça. Je ne sais pas si j'ai jamais répondu à ta question. Là. Oui, ok, parfait. Fait que c'est ça. Mais très bonne question, hein. Merci Miguel. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres commentaires. Parler maintenant ou teaser à jamais, là, je pense. C'est bon? Personne ne s'oppose à que je ferme? Ok, parfait. Donc, comme je vous ai dit, vraiment, ne pas oublier que nous sommes justifiés vraiment parce que Christ a fait. Et c'est quelque chose d'éternel. Donc, si vous voulez, je prie pour conclure le cours. Seigneur, je te remercie pour cette matinée. Merci Seigneur parce qu'on a pu voir que nous sommes juste devant toi Seigneur, parce que Christ a fait par son obéissance, par sa mort à notre place et par sa résurrection. Je te demande Seigneur que nous n'oublions jamais cette vérité Seigneur, qu'un jour on ne change pas d'avis comme les Galates, que nous pensons que nous serons juste devant toi Seigneur parce qu'on fait par nos œuvres, mais que ce soit vraiment Seigneur tout le temps à travers la foi en ton Fils Jésus. Donne-nous, Seigneur, cette humilité de se rappeler de ça, Seigneur. Qu'on soit toujours des personnes humbles avec les autres, qu'il n'y ait pas d'arrogance en nous, Seigneur. Je demande que tu puisses bénir la célébration qui s'en vient, Seigneur, que tu puisses parler à l'Assemblée, que tu puisses parler à nos cœurs, Seigneur, et que cette foi que nous avons en toi ne soit pas stérile, mais qu'on puisse donner du fruit pour ta gloire. Je te remercie pour tout, Seigneur. Amen.